C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up.
Please
shut up.
Stop.
Shut up. 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 Shut up.
Allez, je te laisse chez les crocs.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, épisode 21 de la saison 2. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
On est reparti pour une petite heure tous ensemble, on va vous parler série télé avec un thème aujourd'hui.
Alors, le thème ce serait la normalité, c'est quoi être différent dans les séries télé ?
Ce qui arrive apparemment assez souvent d'ailleurs.
Oui.
Alors, pour aborder peut-être déjà le thème principal, deux petits pilotes qui démontreraient un peu ce qui...
Qui rentre en effet dans le sujet de cette émission.
Mm-hmm.
Il s'agit donc de toutes nouvelles séries qui viennent d'arriver, l'une sur la Fox, l'autre sur ABC. On va commencer tout de suite avec la Fox. Il s'agit d'une série policière, somme toute qui peut sembler assez classique puisqu'il s'agit de résoudre une enquête. Hein. L'intérêt de cette série-là, ce sera le personnage. Il s'agit de Backstrom et c'est un enquêteur, un policier qui est assez particulier, on va dire. Il ne prend absolument pas soin de sa santé. Il est d'ailleurs obligé d'aller régulièrement chez le médecin pour que le médecin l'autorise à continuer à être policier parce qu'il risque apparemment de gros gros problèmes à cause de son surpoids, de ses excès en tout genre également. Il est assez particulier dans son fonctionnement aussi vis-à-vis de ses enquêtes. Il est assez incontrôlable apparemment par ses collègues et ses supérieurs. Et il a un mode de vie très à la marge puisqu'il vit en colocation avec son fils qu'il a eu apparemment avec une prostituée et qui est lui-même gay, je ne sais plus si c'est quoi son métier, mais je crois qu'il doit avoir encore un métier assez bizarre aussi. Donc, enfin, on voit qu'ils n'ont pas hésité à charger la mule à ce
c'est
niveau-là.
Ils
se sont donnés à cœur joie pour avoir un personnage vraiment très très chargé, quoi.
Mm-hmm.
Mais alors, le personnage est incarné par Rainn Wilson. Rainn Wilson, on le connaît notamment parce que il a joué pendant très longtemps Dwight Schrute dans The Office.
Ouais.
Voilà, ça nous situe un petit peu le personnage. Et je dois dire que, moi, j'étais super impatiente.
Tu étais déjà fan du personnage en lui-même.
J'étais déjà fan du trailer.
Voilà.
À mon avis, on peut déjà le dire comme ça. Donc j'étais très impatiente de voir ça et j'ai pas été déçue. Quelque part, on pourrait se dire, plus on en attend et plus on risque d'être déçue. Là, j'ai pas été déçue. Quelque part, évidemment, on ne peut que penser qu'il faudra étoffer un petit peu tout ça et ne pas se contenter des quelques préjugés du pilote, mais déjà on est parti, je trouve, sur de bonnes bases, un personnage qui me plaît, qui a un fonctionnement un peu particulier mais qui est efficace, et donc je l'aime déjà ce personnage, j'ai envie de le suivre pendant des années.
Voilà, pour le coup, pour une fois, tu es bon public, et c'est tant mieux, il y en a une, c'est bien, une bonne petite série à suivre.
Comment ça, pour une fois, je suis toujours bon public?
Ouais, ouais. On va dire ça. Et le deuxième petit pilote, alors ?
Alors, le deuxième pilote, cette fois-ci, c'est une comédie ABC, et il s'agit de Fresh Off the Boat. Ça aussi, hein, j'en avais parlé en disant que je l'attendais. Mm-hmm. C'est une comédie qui nous présente, cette fois-ci, une famille chinoise qui déménage de, je crois que c'est de Washington, vers Orlando. Et donc, elle doit essayer de s'intégrer dans ce nouvel environnement, ce qui n'a pas l'air facile du tout. Parce que apparemment il y a beaucoup plus de Chinois à Washington qu'à Orlando, ouais. J'ai cru comprendre. Hein. Et je dois dire que à nouveau, ben les personnages m'ont bien plu. Il faut avouer que pour une comédie, le pilote fait pas énormément rire, mais ça met en place toute une série de choses qui peuvent attacher suffisamment pour donner envie de suivre cette famille-là. Je trouve que l'idée d'avoir le père qui est très très pro-américain avec la volonté de s'intégrer à tout prix et qui a donc créé son propre ranch steakhouse pour accueillir les clients et qui ne comprend absolument pas pourquoi il y a personne qui vient dans son restaurant, et au point même qu'il engage une personne blanche pour faire l'accueil en se disant si c'est un blanc qui voit l'accueil ils viendront plus facilement. Enfin, il veut tellement s'intégrer qu'il est prêt à tout, le pauvre. Et puis le fils aîné qui lui est à fond dans tout le rap gangsta de. Alors c'est basé sur l'histoire vraie d'un cuisinier, je crois, américain que je ne connais évidemment absolument pas, ouais. Et dont je n'ai d'ailleurs pas retenu le nom, mais. Voilà, je trouve que ça avait vraiment l'air sympathique et on a envie de savoir ce qui va se passer dans cette famille-là. Comment ils vont continuer à se prendre des mandales finalement parce qu'ils ont du mal à s'intégrer quand même. Hein.
Ok, voilà. Vie pas facile d'une famille chinoise aux États-Unis. À suivre donc.
Oui, je trouve.
Très bien. Voilà les deux petits pilotes. On est déjà arrivé à une petite pause musicale peut-être ?
Oui.
Ben vas-y, je t'en prie, présente la chose.
Alors, c'est une musique qui a été entendue dans Backstrom, dont je viens de parler. Il s'agit de Gutless des d'Andy Warhols.
We'll be right back.
voilà, nous sommes de retour pour aborder le sujet du jour, la normalité dans les séries, ou bien encore l'anormalité dans les séries.
Exactement.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette présence quand même assez massive de personnages qui sortent très très largement de l'ordinaire ou qui font dissonance avec leur milieu dans les séries. Alors, on va commencer déjà par pouvoir dire que c'est un procédé très fréquent parce que c'est efficace.
J'ai l'impression qu'ils en ont besoin, quelque part, souvent.
Ça permet en tout cas d'avoir d'emblée un pitch qui donne envie. Quelque part, on se dit, je vous propose un milieu qui est assez classique, et puis dans ce milieu classique, on va y placer quelqu'un, quelque part, qui est à l'opposé de tout ce qu'on peut attendre dans ce genre de milieu-là. Et
On en avait déjà parlé à l'époque pour les comédies. Enfin, c'est un procédé utilisé souvent, parce que justement, l'exagération d'un certain type de personnages ou de critères aide énormément, évidemment. Si on n'a que des gens normaux face à soi, oui, on tombe dans un autre humour. Enfin, tu vois, il y a moyen d'en faire un humour décalé aussi, mais ça aide énormément.
Évidemment, le but dans les comédies, souvent, c'est d'exagérer un petit peu les traits. Et donc, évidemment, on va retrouver beaucoup ça dans les comédies. Mais on ne retrouve pas ça que dans les comédies.
Non,
On peut remarquer qu'il y a beaucoup de... on va appeler ça de manière très large de drama, qui utilisent aussi le même procédé. Il suffit déjà rien que de voir par exemple une série comme Buffy ou comme Firefly. Tout le principe, c'est simplement ça, quelque part. C'est le pitch, c'est on a un milieu et on a des gens à l'intérieur de ce milieu qui ne gueulent pas du tout. Dans Firefly, on a un milieu qui est très SF, on a des voyages dans l'espace, etc. Et puis on a des sortes de cow-boys qui arrive là-dedans, et c'est ce mélange bizarre qui va faire le charme de la série. Dans Buffy, on a la blonde un petit peu écervelée qui normalement devrait se faire tuer très vite dans le genre fantastique de vampire, et qui là est celle qui va casser la tronche à tout le monde, quoi. Donc on peut admettre que c'est particulièrement efficace, et j'imagine, si moi j'étais scénariste, au niveau du pitch que ça offre, tout de suite ça marque les esprits, et on se dit ah ouais, j'aimerais quand même bien voir ce que ça peut donner. Donc de plus, tout scénariste, je crois, a besoin absolument d'individualiser, de caractériser le plus vite possible ses héros, on va avoir également une tendance à accentuer les différences. Parce que ça va pouvoir apporter des problématiques, apporter une individualisation très très forte des héros principaux. Ça va pouvoir apporter aussi beaucoup plus de profondeur. Ce sont souvent des gens qui sont assez marqués par la vie, et donc qui vont pouvoir porter un affect auquel on va pouvoir s'identifier plus ou moins, si nous-mêmes on s'est senti un jour ou un autre ostratisé ou blessé par la vie.
Je vais me réveiller. Oui.
Tu as entendu un mot un petit peu bizarre, différent des autres, et tu t'es dit oula.
Voilà. On vous le traduira plus tard. Oula, j'y arrive plus.
D'un point de vue donc déjà purement de l'écriture d'une série, c'est particulièrement intéressant, et c'est même indispensable de faire ce travail-là, ce qui explique donc qu'il y en ait autant.
Énormément.
Voilà, en plus, on va pouvoir observer que c'est aussi une occasion assez considérable d'interroger les normes de notre société. Et donc, évidemment, ça peut être intéressant si tu veux faire de ta série une série qui a un propos. Voilà, donc ça rajoute encore une fois de la profondeur, du sérieux, une vue à long terme à ta série et à la fiction que tu as envie de construire. Alors parfois, ça peut être interroger les normes simplement pour les consolider, mais ça peut être aussi, et c'est souvent d'ailleurs le cas, malgré tout, pour les modifier un peu, pour essayer de faire bouger les lignes.
Les mentalités, un petit peu.
Voilà, faire bouger un peu les mentalités. Mmh. Alors, j'ai une théorie.
Aïe. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, elle a une théorie.
Oui, une théorie.
Il nous reste 50 minutes, alors.
Alors, en gros, je me demande si... alors, ici, on va pouvoir s'interroger à tout jamais sur qui, de l'œuf ou de la poule. Hein. Ça, il n'y a évidemment pas de réponse, mais en tout cas, ça nourrit. Et ça se nourrit aussi, probablement, d'un sentiment que j'ai l'impression très très contemporain de marginalité. Et ce sentiment serait finalement assez répandu dans la grande majorité de la population. C'est donc ce que j'appellerais une marginalité de masse. J'aime bien les trucs qui sont un petit peu contradictoires.
Voilà.
Cette idée que... Mais, On est tous différents. Et
oui,
donc,
mais c'est un peu par mode aussi. Enfin,
oui.
On veut être différent, on ne veut pas être comme les autres.
Oui, mais justement...
Et on devient comme les autres.
Justement, le fait quelque part de flatter ce besoin de se sentir différent à travers l'identification à des personnages très très différents, j'ai l'impression, nourrit un besoin actuel. Voilà. Le problème, en effet, c'est que... probablement qu'on ne se rend pas toujours bien compte à quel point c'est banal, finalement.
C'est formaté,
c'est
finalement.
Devenu banal d'être différent, quoi. C'est un petit peu comme cette idée selon laquelle, aujourd'hui, qui ne se sent plus geek, quoi. Il y a une époque où c'était super mal vu d'être geek. C'était celui qui se faisait enfermer dans les toilettes par tous ses petits camarades. Et
ouais, je te rassure, hein. Pas encore en enfermer un ou deux au bureau. Hein.
Ok. Écoute, ils vont être ravis de t'entendre.
Bah, ils se reconnaissent. Voilà. Mais oui. Pourquoi,
okay.
Pourquoi on devrait devenir geek tout d'un coup, hein? Hein?
Mais en tout cas, si la culture geek, si les séries avec des geeks, etc., etc., marchent autant, c'est quand même beaucoup parce qu'ils ont acquis un statut beaucoup plus largement prêt à l'identification qu'il y a encore une vingtaine d'années. Quoi.
Il y a eu une évolution, on est bien d'accord, mais bon, voilà.
Tu crois qu'on n'en est pas encore à tous se sentir...
Non.
Bon, ok.
Pas moi, en tout cas. Enfin, ouais. C'est pas comme une... Enfin, non, je veux pas lancer ce débat-là.
Toi, tu vois la norme et tu te dis, moi, je suis tip-top au milieu, là.
Non,
moi, je me sens...
Moi, je suis moi.
100% normal.
Non, je suis bien...
Il me semble bien aussi.
Je suis bien barré, mais bon, je suis pas geek. Et pourtant, je pourrais
geek,
en avoir les attraits.
Oui,
les
c'est
attraits.
Un exemple.
Oui, mais voilà.
Exemple.
Mais bon.
Ok, bon.
Oui, je vois pas.
D'accord. Je suis tombée sur le seul type auquel il fallait pas parler de ça, en fait. Le
oui,
mec,
ça c'est bien possible.
Le plus banal, le plus intégré au monde, c'est pas ça?
Comment?
Ah.
Banal?
Non,
mais on doit pas parler du même.
Ok. J'essaie un petit peu
mais
de te titiller pour voir à quel point...
Intégré, je le suis, oui. Adulé, adoré.
Bah oui, bon, voilà. En effet. Donc dans ta tête, tout ça se passe très bien.
Donc je ne suis pas peut-être tout à fait normal non plus dans ma tête.
Voilà.
Ok.
Alors, donc, on va pouvoir par la suite un petit peu développer ce que je viens de dire en essayant de repérer quels sont les types de séries dans lesquelles ce sujet-là, le sujet de l'intégration, de la normalité, du fait d'être comme les autres ou pas, va être particulièrement traité.
Oui, sur différents aspects, différentes formes.
Voilà.
Ok. Très bien, une petite pause musicale avant d'aborder donc un premier aspect.
Oui, il s'agit de 99 Problems de Hugo. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Tip my hat to the sun in the west. Feel the beat right in my chest. At the crossroads a second time. Make the devil change his mind. But it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. 99 problems, but a bitch ain't one. Well, you can come inside, but your friends can't come. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. 99 problems and a bitch ain't one. I got 99.
Enchaîner avec cette magnifique musique sortie du thème de Buffy contre les vampires. Petite précision, 99 Problems, c'était sorti de...
The Inbetweeners, la version US.
Bien, bien, bien. Alors, les séries normales, anormales, thème abordé, l'aspect des ados ou pré-ados, adultes, machin.
Alors, un type de série dans lesquelles on va retrouver beaucoup... cette question-là des normes, de je me sens différent, etc., etc., c'est évidemment toutes les séries adolescentes où on peut même élargir ça aux pré-adultes, on le verra, puisque ben, ça va être l'occasion de différentes choses. La première étant simplement d'exprimer une difficulté à trouver sa place dans la société. Évidemment, si on se sent différent... Ce que, ben, on peut imaginer que beaucoup d'adolescents
voilà,
ressentent.
Voilà, j'avais envie de dire, c'est la plupart. C'est pas parce que dans les séries, on en représente toujours un ou deux dans le groupe qui ont plus difficile. L'adolescence,
ben
voilà,
oui,
c'est
ben voilà,
vraiment
c'est
pas
pour,
évident.
C'est pour ça que c'est les séries privilégiées, évidemment, pour montrer ce genre de problématiques-là. On touche un public qui ressent particulièrement intensément ce problème-là. Donc, on va l'aborder de toutes les manières possibles, que ce soit en effet en montrant un ou deux personnages qui, vraiment, au fond de leur chair, ont du mal à se sentir comme tout le monde, etc., qui souffrent énormément. Mais ça peut être aussi par beaucoup d'autres manières, évidemment, de représenter ces choses-là. Mais c'est aussi, mais d'un côté on a le côté souffrance de pas être comme tout le monde, mais c'est aussi l'occasion de célébrer cette période qui justement, bah, parce que on n'a pas vraiment à être intégré à la société, à la vie active, etc., au monde du travail et tout ce qu'on peut imaginer comme joyeuseté dans ce genre-là, mais c'est une période particulièrement je trouve plus mes mots particulièrement jouissives aussi pour ça. On ne sait pas bien définir qui on est, c'est clair qu'on ne fait pas partie de ce que la société attend de nous, on est encore un petit peu en révolte, etc. Et c'est particulièrement agréable de se rappeler ce sentiment-là aussi, même quand on n'est plus tout à fait un ado, c'est aussi un plaisir de pouvoir...
Ah, la nostalgie.
Ah, mais oui. On peut retrouver donc dans beaucoup de séries ben ces deux éléments-là, à la fois l'expression d'une difficulté et à la fois la célébration d'une période dans laquelle tout est encore possible finalement et où la révolte vis-à-vis de l'ordre est permise. Évidemment, on va pouvoir citer Freaks and Geeks par exemple, on va pouvoir citer Misfits, pourquoi pas, Young Americans, My Mad Fat Diary également, oui. Daria qui
évidemment.
Est évidemment très particulière également. On va pouvoir citer aussi quoi, Young Americans, je l'ai déjà dit.
Tu sais plus. Voilà.
Alors cette petite série n'a eu que 7 épisodes, mais ça tapait exactement dans le mille également à ce niveau-là.
Ouais.
Une série dont je n'ai vu que le pilote, mais qui ne peut également que traiter de ça, c'est Teen Wolf.
Ouais.
Ça me paraît assez évident. Et puis.
Oui.
Et puis évidemment, je vais parler de Buffy, tu t'en doutes.
Mais oui, il va falloir.
Mais je suis obligée, écoute, je suis désolée. Parce que on a l'expression d'une souffrance, la célébration d'un mode de vie joyeux, etc., plus libre, mais on a aussi la représentation d'un parcours initiatique. À partir de la constatation de « je ne suis pas comme tout le monde
»,
eh bien, il va y avoir la volonté de la part de la série de représenter le parcours initiatique de cette personnalité qui n'est pas comme tout le monde, Buffy étant un exemple emblématique de ce mode de représentation d'un parcours initiatique d'une personne qui aimerait bien être comme tout le monde, mais qui simplement parce que son destin est différent, ne peut pas.
Bien.
Voilà.
Oh, vous ne regarderez plus jamais Buffy contre les vampires de la même façon, hein. Attention. C'est très sérieux cette série.
Ne te moque pas de moi.
Mais bon.
Voilà. Alors, on peut aussi retrouver ce mode-là chez d'autres, dans d'autres séries qui sont peut-être moins adolescentes, mais que je qualifierais également de parcours initiatique et donc de séries pré-adultes quelque part. Parce que même si parfois ça représente des adultes, qui par exemple travaillent déjà et parfois depuis un certain temps, mais ce sont des personnes qui ont un mode de pensée encore très très adolescent et qui justement apprennent au fil des épisodes et des saisons à finalement se construire en tant qu'adulte. Et par exemple, une série assez représentative de ça, c'est une série de l'année passée qui s'appelle Wrong Mans. Je sais pas si tu te souviens de cette série-là.
C'est pas grand-chose.
Deux hommes qui étaient embarqués dans une aventure totalement abracadabrante parce qu'ils trouvaient un téléphone sur le bord de la route
à un moment.
Ça te revient et c'est vraiment ça, c'est le type qui est un petit peu l'adolescent comme on dit, le plus basique, il a un travail mais il a jamais vraiment grandi dans sa tête, il est resté un grand gosse et à travers les épreuves que vont lui apporter cette aventure là, il va devenir un homme et finalement réussir à se taper la meuf. C'est un petit peu ça le message final, j'ai l'impression.
Tu me surprendras toujours.
Alors dans le pendant plus féminin, on peut se dire que Ally McBeal c'est aussi la même chose. Hein. C'est une fille qui est encore dans sa mentalité très très adolescente à espérer l'amour fleur bleue, etc. Et qui à force de se prendre des mandales va finir par on l'espère pour elle en tout cas, grandir un petit peu et être un peu plus...
Et devenir une femme.
Plus pragmatique dans ses choix amoureux. Écoute, est-ce qu'à la fin, vraiment, elle y arrive ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a un essai. On peut aussi remarquer ça dans Awkward. Awkward, qui est une série adolescente contemporaine, mais où on a aussi une jeune fille qui est très très banale, qui ne se sort absolument pas de l'ordinaire et qui donc n'a quasiment pas de vie et qui, suite à une lettre anonyme, va rentrer dans un parcours où elle va finir par se découvrir elle-même, faire découvrir qui elle est aux autres et comme ça... avoir plein d'amis, une vie, etc. Enfin bon, c'était surtout le propos de la première saison. Après ça a un petit peu périclité en plein d'histoires amoureuses abracadabrantes. Je vous laisserai la joie de découvrir tout ça.
Avec toutes les séries que tu viens déjà d'énoncer, à mon avis, les gens doivent arrêter de vivre pour regarder déjà tout ça.
Mais je leur souhaite. Okay. Non, je rigole, mais...
Tout le monde n'est pas comme toi, hein ?
Non, je sais.
Voilà,
je sais.
N'en fais pas un boulot, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Mais j'en fais pas un boulot non plus. Hein.
Un petit peu.
Mais je suis pas payée.
Ah voilà, voilà. C'était ça le problème.
Je le rappelle, monsieur le directeur,
La suite pour terminer.
Et enfin, je citerai une dernière série qu'on peut aussi mettre dans cette catégorie-là, de parcours initiatique, de sentiment d'être vraiment très différent. Mais ici, un peu comme dans Buffy, d'ailleurs représenté de manière très symbolique, puisqu'il s'agit d'un monde totalement fantastique, c'est dans In the Flesh, dans laquelle il s'agit d'un zombie qu'on essaie de réintégrer plus ou moins dans son village natal.
Ouais, je me souviens bien aussi.
Te souviens aussi, mais là aussi, c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, quoi. C'est un type qui n'était pas vraiment à sa place dans sa vie, à tel point qu'il s'est suicidé d'ailleurs, qui est revenu en zombie, et qui, grâce à un traitement trouvé par le gouvernement, va essayer de se réintégrer, mais en ayant admis au départ qu'il ne serait plus jamais comme les autres. Quelque part, sa mort lui aura permis d'admettre qu'il ne serait jamais comme les autres.
Oui, il l'admet, mais c'est pas facile quand même. Hein.
Ah non, ça, voilà. Ça j'ai pas dit que c'était facile de pas être comme tout le monde, hein. Même si tout le monde n'est pas comme tout le monde.
Mais tout le monde veut, voilà. Donc, c'est un rêve, et puis finalement ça se transforme en cauchemar.
Tout ça est trop compliqué.
Oui, je trouve aussi.
Oui.
On a déjà perdu beaucoup d'auditeurs les minutes précédentes.
On va d'ailleurs s'écouter de la musique, je crois, pour essayer de reposer nos neurones 5 secondes.
Surtout les miens.
D'accord.
Le seul là qui traîne.
Oui,
voilà.
Le tien, oui. Ton neurone.
Mononeurone.
Voilà,
alors,
celui
musique.
Qui est super normal. Donc, il s'agit de Pain, de Four Star Mary, entendu dans Buffy.
Évidemment, évidemment.
Bah oui, bah oui.
Buffy est incontournable ce soir.
Lost for years.
On est de retour. Second aspect à aborder autour de la normalité et la normale.
Oui, alors il s'agit ici, on a mis de côté tout ce qui était adolescence, parcours initiatique et tout. Donc on se concentre ici sur les séries dont véritablement c'est le thème principal que de nous parler de cette anormalité et de ce rapport plus ou moins difficile à la norme. On peut repérer deux styles particuliers dans ces séries-là. La première étant très souvent représentée par des séries, encore une fois, fantastiques. Je citerai notamment parmi les séries fantastiques dont c'est vraiment le fond de commerce, American Horror Story.
Ouais.
On va peut-être un petit peu développer, mais et Being Human également. Moi, j'ai vu que la version anglaise, mais j'imagine que la version américaine doit avoir le même thème, même si le pilote était beaucoup moins bon. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais donc, on peut aussi citer True Blood.
True Blood, oui, j'allais
voilà.
dire.
Donc, souvent, ces séries-là sont l'occasion d'une revendication au droit à la différence et on peut remarquer que notamment parmi les séries qu'on a citées mais pas que il y a beaucoup cette la présence de la communauté gay assez régulièrement représentée dans ce genre de séries, ce qui est assez logique puisque le rapport à la normalité c'est un petit peu leur quotidien. On peut par exemple.
Par contre, pourquoi les cantonner dans des séries parfois
ils sont
comme
pas
ça
cantonnés là-dedans. J'ai pas l'impression. Il y a d'autres séries
qui
se portent aussi sur la communauté gay et qui n'ont pas comme questionnement principal celui-là. Hein.
Justement, c'est ça que je veux dire par là. Je dis pas que la communauté gay est cantonnée dans un type de série particulier, mais plus que ce soit dans ce type de série ici où on marque justement cette volonté, si tu veux, d'identité, peut-être, de reconnaissance, tu vois ?
Oui, Je comprends ce que tu veux dire, mais ici, ben, autant dans le cas de American Horror Story que de True Blood, ben, il s'agit de créateurs de séries qui sont gays et qui donc portent en eux ce besoin et ce questionnement autour de la norme qui, et cette revendication aussi de droit à la différence qui fait probablement que c'est eux qui portent ces séries-là. Maintenant, il pourrait très bien y avoir d'autres réalisateurs qui auraient à se questionner aussi sur ce thème-là et qui, parce qu'ils ne sont pas homosexuels, le proposeraient différemment. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, c'est beaucoup ces créateurs de séries-là qui s'occupent, qui se sont emparés de cette question-là. Donc, d'office, il y a toujours un peu ce filtre-là qui reste présent, j'ai l'impression. On peut donc remarquer que souvent, le fantastique et les pouvoirs surnaturels sont utilisés pour permettre beaucoup plus facilement la métaphore et le côté universel où tout le monde peut un petit peu se reconnaître dans les archétypes, que ce soit le vampire, le loup-garou, etc., etc. On connaît un petit peu tout le bestiaire qui peut exister à ce niveau-là.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on utilise justement ce personnage fantastique bien connu, pas uniquement pour l'horreur ou pour la peur, mais oui, il y a vraiment ce double langage maintenant d'essayer de montrer les différences, d'essayer de se défendre pour certains droits, le droit d'exister, le droit de... C'est beaucoup plus marqué, j'ai l'impression, que dans les débuts où c'était vraiment un outil utilisé pour amener un récit différent, simplement, tu vois, amener du fantastique. Dans les séries dont tu parles, il y a vraiment ce combat-là de reconnaissance, de comparaison par rapport à la norme.
Oui, mais oui.
je pense pas que ça a toujours été le cas.
Le procédé n'a pas forcément toujours été utilisé pour ça. C'est vrai, par exemple, que les questions de vampires, c'est pas uniquement sur les questions d'identité et de
norme
que ça se situe. C'est beaucoup la question de la sexualité,
Dracula,
du rapport au sexe qui est présent. Ça, je suis d'accord. Mais ici, quelque part, et on n'a pas tant d'exemples en tête non plus. Le cas d'American Horror Story ici est intéressant parce que même si la série a beaucoup de défauts, malgré tout, elle offre à chaque saison, puisqu'il s'agit d'une anthologie avec des histoires différentes à chaque fois, mais on voit à quel point ça traite sans arrêt de la même chose. C'est toujours le rapport à la différence, la violence avec laquelle la différence peut être traitée, ostratisée, maltraitée, etc. Et donc, également la manière dont ces personnes différentes, à un moment, peuvent finir par devenir le monstre qu'on attend d'elle quelque part. Il y a une sorte de va-et-vient là entre la violence que la société renvoie à des gens qui sont différents et puis ces gens différents qui se révèlent finalement véritablement monstrueux par réaction. Je sais pas si tu vois ça aussi ou bien si c'est juste moi qui délire, mais...
Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est une sorte de moteur, une sorte d'impulsion aussi. C'est un cercle vicieux, finalement. Le fait qu'on soit un peu mis en marge d'une certaine société, d'une certaine normalité, au final, on devient quasiment ce qu'on décrit de nous, ou en tout cas, on devient violent par rapport à cette société qui ne nous accepte pas tel qu'on est, et ça ne fait qu'empirer finalement l'opinion de cette fameuse société qui nous rejette par rapport à notre différence.
Ouais. Oui, et il y a aussi le fait que on n'est plus totalement des êtres humains, mais on devient des sortes d'archétypes monstrueux comme ça, parce que le fait de ne pas être traité comme des humains, fait que ben, ces personnes deviennent elles-mêmes pas totalement humaines, quoi, au final. Voilà.
Voilà. Je ne l'ai jamais vécu personnellement. Hein. Je vois. Enfin, j'imagine très mal ce que ça peut être en vrai pour ceux qui le vivent, hein. Pas dans les extrêmes qu'on voit dans les séries, mais par rapport à un rejet quelconque, ça ne doit pas être évident. C'est clair. Et on doit, par moments, se sentir assez déshumanisé.
Oui, c'est exactement ça. C'est le fait de ne avoir l'impression qu'on ne voit jamais l'humain en soi, mais qu'on voit toujours la différence avant de voir l'être humain qu'il y a derrière, quoi. C'est un petit peu toujours ça qui est en jeu. Le deuxième type de série qu'on va pouvoir citer aussi, qui traite également de la norme, même si ici, ben, on l'a dit, c'est beaucoup sur le mode de l'humour et donc de l'exagération, ça va être ben, de nombreuses comédies qui revendiquent un grain de folie, un mode de vie un petit peu différent, mais le fait que, quelque part, il y a aussi un certain charme à ne pas rentrer dans la norme. Alors, évidemment, The Big Bang Theory peut être intégré à ça, même si ben, c'est extrêmement mainstream, mais on l'a dit, ben, c'est un petit peu ma théorie de la marginalité de masse. Hein. On a la différence de nos jours, c'est bon pour tout le monde. Mais on a aussi d'autres séries, quand même très très reconnues aussi, qui vont plus jouer sur ce fait de on n'arrive pas vraiment à s'intégrer, on reste sans arrêt sur le pas de la porte de la vie active, de la vie adulte, mais on n'arrive jamais vraiment à franchir le pas. Je citerai notamment Community, où c'est vraiment un groupe où beaucoup d'entre eux sont de vrais adultes, mais qui sont un petit peu à la marge. Ils sont dans une fac de seconde zone. Ils n'ont jamais vraiment réussi à commencer une carrière sérieuse, ou en tout cas, ils se sont plantés méchamment. On a New Girl également, où le groupe aussi... même si il y en a un, c'est vrai, dans le groupe qui a un vrai travail depuis le début et qui semble ne l'avoir jamais quitté, mais il a de nombreux autres retards qui compensent le fait qu'il est absolument pas un vrai adulte malgré tout. Cette petite bande de personnages-là aussi est totalement dans l'impossibilité de franchir le pas de l'âge adulte, quoi. Manifestement, malgré les années qui passent, malgré le fait que je crois qu'ils ont quand même tous la trentaine bien tapée, mais malgré tout, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire à ce niveau-là. On peut citer dans un autre mode, parce que là, totalement exagéré et revendiqué comme étant de l'exagération à fond, Philadelphia.
Oui, là c'est complètement barré.
Bon, là c'est plus tellement l'expression d'une sorte de sentiment du jeune adulte à ne pas réussir à franchir le pas de la vie active, mais là c'est vraiment une volonté de rester totalement en marge. Parce qu'ils sont mais de toute façon, on ne voudrait pas qu'ils s'intègrent. Hein. Ceux-là, ils sont trop tarés pour ça. Une petite comédie anglaise aussi qu'on ne cite pas assez souvent, c'est Black Books.
Ouais.
Black Books aussi, un petit peu comme dans Philadelphia, ils sont trop barrés, ceux-là, on n'a pas tellement envie qu'ils sortent de là non plus, même si les regarder est un vrai délice.
Bien, bien.
Voilà.
Je crois qu'on a fait le tour, on a déjà beaucoup parlé sur ce sujet. On va encore marquer une pause musicale avant de revenir avec une dernière petite revue.
Oui, exactement. Alors, il s'agit, ici j'ai choisi uniquement pour le titre du groupe qui s'appelle The Anomalies. Oui. Et il s'agit du titre Employee of the Month. On a entendu ça dans Being Human, évidemment la version UK.
I am the employee of the month. I've got a badge up on my front. So strike me down, down, down.
Mummy won't approve it. Love them sticky carpets and make your shoes stick. So move that ass like you used to move it. You get pretty honey, so I love your blue lips. Love the smell of flowers, so spark up your tulips. Think I hang around and then I wait to the new spits. I'm a dirty little pervert in the top of it, ruthless.
I am the employee of the month. I've got a badge up on my front. So strike me down, down, down. So strike me down, strike.
On va terminer assez rapidement avec un dernier aspect qui parle de normalité dans les séries télé.
Oui, il s'agit de toutes les séries ici qui se situent davantage dans le monde du travail et qui vont souvent nous représenter, un peu comme dans le pilote dont on a parlé au début de l'émission, un héros qui explose totalement les normes. On a tous en tête des Dr. House, Dexter, Vic MacKay, Tony Soprano, etc. Qui ne sont pas là où on les attend à l'origine. Il s'agit ici à la fois d'accorder une primauté à l'individu et en même temps d'affirmer des normes souvent concurrentes à celles qui normalement devraient être présentes. On peut donner l'exemple le plus évident dans Dr. House, le fait que ce soit la norme de la vérité et de l'authenticité vis-à-vis de soi-même qui prime sur l'attention aux autres et la notion de soin. Par exemple, évidemment, cette technique a pour conséquence d'individualiser les enjeux, mais en même temps, on l'a dit, c'est l'expression d'un mode d'être qui est assez répandu dans la société. Ça permet surtout de montrer que même si ces gens sont différents, ils sont particulièrement efficaces et donc de donner d'autant plus d'appui à ces normes différentes qu'ils essaient d'imposer.
De mettre en avant.
Voilà.
Merci Aurore, tu as bien parlé, bien résumé. On va déjà se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine évidemment. Toute l'actu de votre émission préférée via le site internet notamment www.seriefolie.be. Le podcast sera disponible très très bientôt. On se quitte en musique, un court extrait de...
Alors, Goodman, chanté par Josh Ritter, sorti de House.
Très bien, à la semaine prochaine Aurore.
À la semaine prochaine.
we shake hands? 'Cause I believe that they're the good guys. We can use all the help we can. So many minor chords outside. I fell in love with the sound. Oh, I love to sing along with you. We got tunes we kicked around. Song. We got a bucket that the tunes go through. Babe, we both have dry spells, hard times, and bad lands. I'm a good man for you. I'm a good man. There was a horse on the road. I was twisting in the hairpin. My hands held on, my mind let go. Back to you, my heart went skipping. I found the inside of the road. Thought about the first time I met you. All those glances that we stole. Sometimes, if you want them, then you got to. Babe, we both have dry spells, hard times, and bad lands. I'm a good man for you. I'm a good man. South of here, they had him cornered in a canyon, and even his horse had disappeared. He said he got run down by a bad, bad man. You're not a good shot, but I'm worse. There's so much where we ain't been yet. So swing up on this little horse. The only thing we'll hear is sunset. Babe, we both had dry spells, hard times, bad lands. I'm a good man for you. I'm a good man. Good man.